I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur un sport où une seule équipe gagne tous les monuments. Après Philipsen sur Milan-San Remo, après Van der Poel sur le Tour des Flandres, et c'est au tour de Paris-Roubaix de tomber dans la besace d'Alpecin qui a tout raflé depuis le début de la saison. Une première dans l'histoire, on en parle en première partie avec bien sûr le débrief de l'Enfer du Nord. Fin des pavés et donc début des Ardennaises, donc avec l'Amstel qui s'annonce. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'absents à cause des chutes, mais aussi des programmes des uns et des autres. À quoi nous attendre dans cette nouvelle campagne? On en parle tout à l'heure, c'est en deuxième partie. Il y aura aussi un petit peu de Tour du Pays Basque, des transferts et tout ça avec un retour. Il est vivant, sa toiture s'est envolée, ses cheveux avec, mais Anthony Colas est bien présent avec nous.
Ça, c'est un coup bas hein, de me parler de la toiture. Effectivement, bonjour à tous. Oui, j'ai un petit souci il y a une dizaine de jours, mais bon, voilà, on fait avec. Bonjour à tous, messieurs. Oui, mes cheveux sont parvenus, c'est pour ça que j'ai mis un petit bob, parce que le soleil apparaît dans la Picardie.
Ah bah, on y fait très beau ici où on est. On est chez Jérémy, c'est ça, qui aujourd'hui, qui m'a accueilli chez lui parce que je n'ai pas internet. Donc Jérémy qui est avec nous aujourd'hui, pas en maître du quiz.
Non, pas en maître du quiz. Également avec un petit chapeau. Même problème qu'Anthony, hein, le soleil réapparaît, donc il faut se couvrir.
T'as mis la crème solaire? Il faut en mettre. Hein. Et donc je le disais, pas maître du quiz aujourd'hui, puisqu'on aura une petite surprise à la fin. Ça sera un nouveau Julien Lepers hein, tout à l'heure.
Je peux me permettre quand même, avant de commencer, de dire qu'Anthony est ravissant avec ce bab cochonou.
Et vous allez faire ça toute l'émission ou c'est comment?
Attendez, j'en ai.
Ah non, mais arrêtez, l'intro va durer 10 minutes, on va rien voir. C'est un enfer
qu'est-ce
déjà.
Qu'est-ce qu'il va mettre?
Oh, le babricard, il est encore pire.
Bon, ça va vite commencer.
Il préfère le cochonou.
Qu'on a quand même une émission à commencer et à terminer.
Non, mais important de savoir avec quel chapeau il va faire l'émission.
Non, mais oui.
Bon, cochonou, c'est mieux quand même, non?
C'est quand même mieux cochonou.
On n'est toujours pas sponsorisé par ces deux marques, ne l'oublions pas.
Et on peut trouver du cochonou chez Leclerc.
Oui, bon, bah c'est super, merci. On va faire mal, hein, très rapidement.
Est-ce que
vous pouvez pas parler, c'est la pire intro de l'histoire de Saderay. Alors au bout de 4 saisons, je savais pas comment on pouvait faire pire encore que ce qu'on avait fait. On s'excuse dans le chat.
Désolé,
le chat
bien franchement présent. Désolé, on va être sérieux.
Le chat bien présent encore une fois, merci à eux d'être là. Et on part direction les pavés, direction nord, c'est le débrief de Paris-Roubaix.
T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein.
Bon, il a assuré un peu plus qu'un tempo, Mathieu Van Der Poel, donc vainqueur de Paris-Roubaix, doublé, Tour des Flandres de Paris-Roubaix, doublé aussi parce que c'est sa deuxième victoire de suite sur l'Enfer du Nord. Bon, Jérémy qui est juste à côté de moi, on est vachement proche. Hein.
Peut-être même un peu trop. Mais...
est-ce qu'on a vu donc Mathieu Van Der Poel aérien ce week-end, largement au-dessus de la concurrence? Est-ce qu'on retient après ce dimanche dantesque?
J'imagine que tu t'attends pas à ce que je te dise non, dans la mesure où il a mis 3 minutes à tout le monde. Oui, il a été aérien, il a été encore plus fort que ce qu'on imaginait. Le scénario, on en avait parlé dans le podcast la semaine passée avec Théo, on s'attendait à voir Alpecin dominé, soit avec Van Der Poel, soit avec Philipsen, soit avec les deux. Bon, ils étaient 3 finalement, puis il y avait aussi Vermeersch.
Ouais.
Mais Van Der Poel a survolé, a dépasser les attentes. En plus de ça, tu sens qu'il y a de la maîtrise dans les trajectoires, dans la stratégie, dans la manière de survoler les pavés. Il y a une photo qui a tourné aujourd'hui, il a les mains dans un bien meilleur état que tous les autres. Même nous, on n'a pas fait Paris-Roubaix, on a des mains toutes fripées. Et lui, c'est comme s'il sortait de la Thalasso. Donc oui, je pense que, qu'il a 10 sur 10 sur la course d'hier.
Avant de donner la parole à Anthony, petite question Jérémy, parce que je te vois avec ta casquette. C'est pas toi qui a lancé la casquette sur Mathieu Van Der Poel.
Je suis innocent, j'étais aux Ardennes, donc je peux pas être partout.
Bon, c'est sûr.
Désolé.
Bon, ça nous rassure. J'espère que c'est pas Anthony non plus. Non, qu'est-ce que tu as pensé de cette course dominée de bout en bout par Mathieu Van Der Poel et Alpecin, bien sûr.
Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Bon, bah merci.
Ça va faire le plaisir à Jérémy Sarakian. Non, et puis de toute façon, il n'y a rien à dire. Il a été en patron. Il était déjà très costaud sur les Flandres. Je ne veux pas dire sans réelle concurrence, qu'il y a quand même Pedersen, Jumbo un peu décimé.
Jumbo, c'est fini. C'est fini, il faut se mettre à la page.
C'est Visma, ils ont même fait une pub.
C'est fini, Jumbo, ça n'existe plus.
Ouais, j'arrive pas, moi. Ouais, Visma. C'est pareil.
Il y avait la politique là-bas. Politique,
non, mais que te dire. Non, il était. Il est parti très tôt. Enfin, par contre, ça m'a fait un petit peu peur. Mais il était très sûr de lui. Puis il a dit en interview après il y avait vent de dos, je savais que je pouvais le faire. Bon, c'était couillu, comme on dira pour parler poliment. Mais non, rien à dire. Après, oui, une Alpecin très solide. Surtout Vermeersch, très très costaud.
Vas-y, dis ce que tu veux dire.
Non, je n'ai rien à dire.
Tu veux dire trop costaud, tu veux dire.
T'es très costaud, mais visiblement, il n'y a pas que moi qui l'ai trouvé très très costaud. Donc oui. Voilà. C'est tout. Ne me fais pas dire ce que tu veux. Enfin, n'essaie pas de me faire dire ce que tu veux que je dise, je ne le dirai pas. Vermeersch, très costaud. Philipsen a fait le boulot aussi. Puis voilà quoi, non, rien à rajouter de plus. Oui, le pilotage, de toute façon, on voit qu'il maîtrise son truc. Les mains, c'est bluffant. On en parlait tout à l'heure avec, j'en parlais tout à l'heure encore avec Thib. Oui, c'est bluffant. Les autres ont les mains complètement arrachées. Lui, il a rien. Même Pidcock a les mains complètement arrachées. Alors, je disais à Thib justement, oui, certainement que lui, il a l'habitude que ça secoue et il tient pas le guidon très très fort. Il serre pas le guidon très fort en fait. Quand tu es très à l'aise techniquement,
ça c'est vrai. Il l'a dit. Il l'a dit lui-même dans des vidéos d'explication, notamment avec des youtubeurs néerlandais qui serraient un petit peu moins et qui couraient sans gants aussi pour éviter trop de friction.
Exactement. Donc ça c'est un point. Après, c'est sûr que quand tu es au-dessus du lot et que techniquement tu es très à l'aise sur le pavé, automatiquement tu es moins stressé, donc tu vas pas serrer le guidon comme un âne. Les autres sont un peu plus stressés.
Ouais,
alors après, je crois que ça peut s'expliquer. Il était quand même pas au top de sa forme, et puis on l'a vu faire des erreurs à un moment quand il est un peu dans le dur. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il se crispe un petit peu et qu'il serre un peu trop fort le guidon. Et
tiens, garde la parole Anthony, parce qu'on a une question dans le chat un peu pointue, et nous, Dieu sait qu'on connaît rien en vélo, par rapport au matériel, parce que ça fait un petit moment que Mathieu Van Der Poel est épargné par les crevaisons, notamment sur ces différentes campagnes de classiques pavés. C'est quoi ? C'est dû à quoi ? C'est ce qu'on demande. Gestion du matos, un équilibre pour lui, savoir piloter, il y a peut-être plein de choses qui rentrent en compte. Toi qui as fait un petit peu de
choses. J'ai pas la réponse, et d'ailleurs Steve s'est trompé au début, enfin a dit une bourde au début.
Non,
dans le
il
direct,
se trompe jamais, enfin.
Steve,
d'ailleurs après il est revenu en arrière en disant que c'était pas les mêmes marques de pneus. Ils utilisent la même marque de pneus. Il faut savoir que la Jumbo, enfin la Visma Bike, utilise les mêmes pneus qu'Alpecin chez Victoria. Et je ne crois pas que Victoria fasse un pneu spécifique pour l'Alpecin. Maintenant, oui, on voit les Jumbo crever tout le temps. D'ailleurs, Steve, justement, l'a dit à plusieurs reprises, mais il n'y a que les Jumbo qui crèvent. Enfin, les Visma, pardon. Je ne sais pas te l'expliquer. Honnêtement.
Non, mais Anthony, il faut quand même dire un truc, c'est que tout le monde crève sur Paris-Roubaix, et moi, je n'ai pas le souvenir. Alors, il a dû le faire 3-4 fois, Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel. Est-ce que tu as souvenir d'une crevaison de Mathieu Van Der Poel ? Tous les autres crèvent.
Non, mais après tu as le souvenir de vous.
Oui, le premier tour des Flandres.
L'année dernière.
Mais depuis 2019, est-ce que tu as souvenir de l'avoir vu crever sur les Flandres ou sur Roubaix ?
Surtout que Philipsen crève. Donc
et
c'est comme
et Van Aert, voilà, t'as crevé combien de fois ? Une fois.
Non, mais ouais. Est-ce que c'est vraiment le hasard ? Bon, on a pas à dire, c'est de la chance, c'est du matos.
Non,
parce
mais
que c'est pas...
je crois pas. Moi. Enfin, oui, la crevaison peut venir par un manque de lucidité. À un moment, t'es un peu moins lucide, tu soulages un petit peu moins le vélo, peut-être, et quoique encore. Là, c'est en permanence que t'es sur du pavé. Donc, c'est pas histoire de dire t'as tapé sur un truc. C'est.
Non mais au-delà de ça, Au-delà de ça, je pense que quand t'es mieux physiquement, et ça aussi, c'est Steve qui me l'expliquait après un cyclocross qu'il avait fait en Suisse.
Oui.
J'ai percé, j'étais tellement au taquet, concentré sur mon effort. Il y a une pierre, j'ai pas eu le temps, j'étais pas lucide.
C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis, sauf que là, t'es sur des pierres pendant 5 heures.
Ouais.
Enfin, pas pendant 5 heures, parce que sur le pavé, quand t'es sur la route, t'es pas sur le pavé. Mais j'ai pas la raison. Après, alors, on sait qu'il y a des marques qui utilisent à l'intérieur de ces pneus tubeless, qui utilisent des espèces de boudins, flap un peu pour éviter. Mais même si t'as ça, enfin, ça n'empêche pas la crevaison
non
plus.
Ah non, Riesbeck a crevé, Philipsen aussi.
Ouais, ouais.
Crevé,
ouais. Donc, bon, tant mieux pour lui, il n'a pas crevé. Après, te dire pourquoi lui ne crève pas et les autres crèvent.
Oui, béni des dieux en ce moment, Mathieu Van Der Poel. On l'a vu aussi dans son attaque à Orchy, hein, 60 km/h sur les pavés, comme si c'était du plat, enfin du goudron pour lui. Il y a eu d'ailleurs pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux. Il a un moteur dans le vélo, etc. C'est pour ça aussi qu'il a les mains aussi propres. Il a changé de vélo en plus, donc il y a eu beaucoup.
Ça n'a rien à voir, ça.
Non, moi je pense qu'il a mis un hologramme sur son vélo et qu'il était dans la voiture Alpecin.
Ah oui.
En fait.
Ouais. Donc du coup, il pouvait contrôler. Il avait
il était tranquille.
Non, mais moi, j'ai regardé un petit peu. Je sais que le dopage mécanique a existé. Je trouve que c'est de plus en plus dur, avec, même si le matériel n'est pas forcément à la pointe en face. On sait toujours que l'UCI a toujours un petit peu de retard. Mais de là à dire qu'il y a un moteur dans le vélo, c'est contrôlé. Ils sont prêts à démonter le vélo s'il faut pour le démontrer. Donc voilà, je sais pas si vous verrez.
Tu peux pas empêcher la suspicion,
oui,
surtout quand tu bats le record de vitesse de San Remo, du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix.
Oui, c'est surtout ça.
Que tu gagnes tout, que tu écrases une même équipe qui remporte 3 monuments, tu l'as dit, ça s'était jamais fait. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas le souvenir. Tu peux pas empêcher la suspicion et tu peux pas empêcher, depuis 4-5 ans, ce constat de dire qu'il y a 5-6 extraterrestres et les autres, et le fossé ne cesse de se creuser. Mais c'est surtout ça, moi, qui m'interpelle. C'est qu'il y a 2-3 ans, les Pogacar, les Roglic, les Vingegaard, les Van Aert, les Van Der Poel, tu savais qu'ils étaient au-dessus, mais ils pouvaient perdre. Van Baarle a gagné,
voilà. Asgreen
a gagné. Voilà. Aujourd'hui, tu peux plus.
Après, Jérém, pour en revenir un peu, je ne sais pas si vous avez eu cette impression. Moi, j'ai eu un peu l'impression qu'on avait eu à Herentals quand il a repris le cyclocross. Rappelle-toi, Jérém, je crois ou quand il a attaqué, tout le monde s'est regardé. Là, oui. Si vous regardez un petit peu, alors oui, effectivement, il met une attaque stratosphérique. C'est très bien joué d'ailleurs de la part de Vermeersch qui fait un faux train, entre guillemets, parce que c'est un très gros train. Van Der Poel vient de doubler, du coup Vermeersch fait un peu chicane dans ce virage, long virage. Donc on voit Pedersen qui descend le pavé pour remonter. Donc c'est très très bien joué. Hein. C'est pas anodin l'attaque de Van Der Poel à cet endroit-là. Mais après ce secteur de pavé, il y avait, si je me souviens bien, encore dans ce groupe de contre, De Visma.
Il y avait Van Dijk, non Van Dijk, peut-être, non
ouais,
mais
il y avait ouais. Il y avait Pedersen, Hippolyte.
Deux groupes AMA FDJ. Il y avait
deux groupes AMA, ouais. Deux Trek, d'accord. Donc on a quand même deux Trek, je ne sais plus à ce moment-là encore. Peut-être que Pedersen est seul. Ouais. Enfin bref, tu as encore des équipes qui sont présentées par deux mecs. Donc pourquoi on n'a pas mis à la planche? Je ne dis pas que, attention, qu'il serait rentré, hein, parce que vu comment marchait Van Der Poel, ça aurait été peut-être
Anto, très compliqué. Pedersen a dit, on s'est tous mis à 100% pour essayer de rentrer, et quand on a vu que l'écart.
Arrête, c'est Pedersen.
Tu sais mieux que Pedersen s'il était à 100% ou s'il n'était pas à 100%.
Surtout que pendant 5-6 km, il y a eu 10-15 secondes, donc c'est-à-dire que
ça a C'est ça, c'est qu'ils ont essayé, et qu'au bout d'un moment, ils ont compris que ça ne rentrerait pas, que l'écart a commencé à s'accroître, et ils ont dit à ce moment-là, on pense à la deuxième place. Et même Pedersen, après, ne pensait plus qu'à la troisième, puisqu'il y avait Philipsen qui était collé à la roue.
Regarde les images.
Oh, on n'a pas le temps.
Non, mais les images, c'est une chose. L'impression visuelle et le ressenti du coureur, Pedersen, il ne va pas te dire.
Qu'ils ne me disent pas qu'ils étaient à bloc quand ils ont 5 de front. Arrête,
regardez. Écoute, ils sont regardés à un certain moment, au début peut-être, mais je peux t'assurer que Pedersen, quand il te dit on a tout tenté pour revenir et on essayait de rester proche et on s'est dit aussi que Van Der Poel, il peut shooter, il peut crever et que la victoire, elle est encore possible, ils ne se sont pas résignés tout de suite. Là, c'est pas Van Torenhout qui, sur l'attaque Van Der Poel, se retourne.
J'ai trouvé que ça s'est quand même assez vite résigné et puis qu'on s'est assez rapidement dit, et d'ailleurs, je crois que Jackie le dit au commentaire, on va courir par la place de 2 assez rapidement.
Moi, pour la place de 3 même, puisque Philipsen avait l'air rien derrière.
La place de 3,
oui, non, mais après, ils auraient très bien joué après en mettant Philipsen dans le compte qui a fait de la patinette. Donc,
Tiens, on va essayer d'avancer, de parler d'Alpecin, parce que c'est aussi l'un des thèmes de notre épisode du jour sur Alpecin qui a montré sa supériorité. Et comment on l'explique, cette supériorité? Est-ce qu'ils ont les meilleurs coureurs actuellement? Est-ce que c'est la stratégie qui est meilleure? Est-ce que c'est même l'option prise par l'équipe pour ne se diriger que vers les classiques qui explique du coup cette supériorité? Parce qu'on a beaucoup parlé de la Visma, la Eagle Trek depuis quand même 2-3 semaines et 2-3 ans pour la Visma notamment, mais là, on a l'impression qu'il y avait un monde d'écart entre Alpecin et les autres.
Alors moi, je vois trois raisons. La première, c'est l'affaiblissement de la concurrence dû au début de saison chaotique, notamment des Visma.
Oui, ça c'est vrai.
Qui se présente hier sans Tratnik, sans Van Marle, sans Wout, et avec la porte extrêmement diminuée. Si au début de saison, on t'enlève ces quatre-là, bah, tu n'as pas d'attente en fait pour la Visma Lidl Bike. En plus, Jorgensen préservé pour les futures échéances. Je ne parle même pas de la Lidl Trek, qui a eu encore des soucis et qui n'avait pas Stuyven, qui avait eu un Pedersen peut-être à 100%, mais peut-être aussi encore gêné par sa chute. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'effectivement, Van Der Poel est le plus fort actuellement sur ce type de course, sur la lancée de son hiver qui a été sensationnel, et que Philipsen a aussi passé des caps. Et le troisième point, oui, je vais le chercher dans la structure de l'équipe qui progresse année après année, qui ne chamboule pas son effectif. Quand tu regardes bien, il y a quand même une ligne conductrice. On procède à des petits ajouts, et je crois que c'était un article de l'équipe qui en parlait et qui est très juste là-dessus. C'est que Van Der Poel, c'est plus qu'un leader, c'est plus qu'un coureur. Il est aussi aux manettes. Il dit, moi, je veux lui, je veux lui, je veux lui. Il y a un groupe qui est structuré avec un leader et avec une nuée de coureurs qui sont à son service. Alors, de temps en temps, évidemment, la roue tourne et Van Der Poel rend service à Philipsen, surtout sur les courses où Philipsen a plus de chances de gagner. Mais globalement, tout le monde connaît son rôle. Et quand tu as un mec qui est à ce point au-dessus du lot, bah, tu te dépouilles pour lui parce que tu sais que tu vas gagner.
Et Anthony, c'est beaucoup plus rare aussi ces équipes qui ne vivent que pour les classiques. Parce qu'avant, on avait la Quickstep qui avait un créneau là-dessus.
Bon, mais très différent, la Quickstep. La Quickstep, c'est accumulé des champions.
Oui. Mais en tout cas, c'était plus différent. Ces monuments, etc. Là, vraiment, je veux dire, le meilleur grimpeur de l'équipe, je ne l'ai pas en tête, mais ce n'est pas quelqu'un qui va nous faire top 10 d'un. On avait Jevine à l'époque, mais maintenant, c'était compliqué. Ouais, non, mais les équipes, elles sont de plus en plus rares, Anto.
Oui, elles sont de plus en plus rares. Et comme a dit Jérém, l'équipe est voilà, de temps en temps, effectivement, il rend un peu la monnaie à Philipsen. Alors là, on avait l'espèce de truc avant qui disait oui, on va faire gagner Philipsen, machin, mais bon, on savait tous très bien que le doublé Flandre-Roubaix, il l'avait dans la tête, Van Der Poel. Parce qu'à un moment, il y avait des spéculations en disant il va faire gagner Philipsen.
Ça dépendait du scénario aussi. S'il n'avait pas réussi à faire péter Pedersen et qu'ils étaient tous arrivés au Vélodrome, je suis persuadé qu'il aurait lancé.
D'ailleurs, ce n'était pas le plan. Hein.
Il y a une chose, et d'ailleurs, je ne sais plus qui en parlait pendant le direct et d'où venait l'info, qui disait, en fait, dans l'oreillette, dans la voiture d'Alpecin, c'est Van Der Poel quasiment qui donne les consignes aux autres coureurs, en fait.
Oui.
Donc, on voit vraiment que c'est lui le patron et qu'il a tous les équipiers. Ils sont là pour Van Der Poel. C'est ce qu'on peut reprocher du côté de la Visma, qui passe pas là cette année sur les monuments, enfin sur Roubaix et les Flandres, parce qu'ils n'avaient pas les gars, mais comme un peu comme Quickstep les années précédentes, où il y avait 5-6 mecs qui étaient capables de gagner. On recrutait beaucoup de champions, et d'ailleurs, des mêmes fois, c'était au premier qu'attaque pour y aller, parce que pour pas qu'un autre attaque. Ça, c'était une approche différente. Et d'ailleurs, chez Visma, il y a des fois, on l'a vu, ça paraît pas carré. C'est pas tout le temps très clair. Alors que chez Alpecin, on a beau dire. Moi, j'ai pas vu le début de course, mais j'ai entendu en revenant le récapitulatif de la course de Jackie et Steve, qui disait qu'en début de course, je sais plus, un tel y avait été, puis un tel, voilà. Il y avait tant de mecs au départ, mais le leader, c'était quasiment à coup sûr à 100% Van Der Poel, sauf si vraiment ils étaient arrivés avec un Pedersen, mais Van Der Poel aurait été là. Là, ça aurait été différent. Mais voilà, les ordres sont bien structurés et on voit des coureurs qui sont complètement à 100% pour leur leader.
Mais ça aurait été intéressant quand même de voir comment Alpecin aurait manœuvré face à une concurrence moins atrophiée, face à un duo Stuyven-Philipsen-Pedersen, face à une Visma avec un Laporte, un Van Aert et un Van Barle à 100%, peut-être même pour les années futures avec un Pogacar, je pense que tu dois t'organiser de manière totalement différente. Tu peux pas te permettre à 130 km de brûler tes cartouches.
Ouais, c'est vrai, c'est ce qui lui a permis d'attaquer très tôt et de faire changer le plan, parce que c'est ce que disait le manager d'ailleurs d'Alpecin, qui disait en gros, c'était pas vraiment le plan. Bon, il avait pas non plus pas le droit, mais c'était pas vraiment le plan, mais finalement il l'a fait et finalement ça s'est bien
le
passé.
Le plan c'était quand même de faire la sélection avant Arambert,
oui,
pour pas prendre de risque de tomber avant la chicane qui faisait bien peur à Van Der Poel. À partir du moment où ils sont 30 dans le groupe au moment d'aborder la chicane et qu'il y a 3 ou 4 Alpecin dans les 10 premiers, la mission elle est accomplie et tu sais forcément que ça va se décanter de plus loin que les années précédentes. Tu t'attends pas à ce moment-là à voir Van Der Poel démarrer dans le carrefour de l'arbre comme l'an passé.
Ouais,
tu sais que ça va attaquer plus tôt.
D'ailleurs, en parlant de cette chicane, tu l'as vu ou pas? Est-ce que tu étais déjà réveillé de la sieste, Anthony, au moment de la chicane?
J'étais rentré pile poil, je crois, pour la chicane. La fameuse.
C'est grave, hein, c'est le jour d'Arambert, t'arrives après. C'est le jour de Roubaix, t'arrives après Arambert, c'est grave. Hein.
Non, mais c'est juste que je voulais en venir. Tu l'as trouvé si dangereuse que ça? On a l'impression que finalement, ça a été beaucoup de discussions.
On peut pas savoir.
Pour finalement. En fait, d'ailleurs, Mathieu Van Der Poel le dit, on a voulu écrémer le peloton exprès parce que
c'est pas ça que tu peux pas savoir.
Mais du coup, non. Tu en as pensé quoi? Parce qu'on n'a pas entendu là-dessus. Donc, il y a un problème de toiture.
Encore une fois, c'est bien les coureurs qui font la course. Et alors là, je sais pas si on va parler des chutes parce que voilà. Et d'ailleurs, j'ai entendu Pidcock en interview qui a dit il faudrait peut-être que les coureurs se respectent un peu plus entre eux. Alors, il n'est pas trop bien placé pour parler parce que j'ai des souvenirs à Hull sur cyclocross où il foutait des coups de casque à tout le monde pendant la cross. Mais bon, c'est Pidcock, je lui pardonne. Non, mais c'est bien les coureurs. Pour en revenir à cette chicane, on les a vus. Bon, en fin de compte, au lieu de sprinter pour rentrer, c'est clair, à 60 à l'heure ou à 65 à l'heure dans le pavé, mais ils ont sprinté pour faire la chicane. Effectivement, sur le papier, c'est un petit peu moins dangereux parce que s'ils tombent à 28 km/h en virage droit ou 22 km/h dans le virage gauche, c'est beaucoup moins dangereux que s'ils tombent à 60 à l'heure sur le pavé. Ça a été tout un truc. Et puis, j'ai entendu quand même que c'était vraiment parce que ça s'est fait au dernier moment et qu'il l'année prochaine, il prévoirait d'arriver par cette fameuse route où ils sont arrivés.
Ouais, de changer de direction, ouais, à ce moment-là.
Ouais, mais d'ailleurs, quand tu regardes sur un plan, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Il y a juste le tour d'un patelin.
C'est pour la boulangerie du patelin.
Je savais pas qu'on avait Thierry Gouvenou aujourd'hui.
Non, mais c'est la team, en fait, à force de côtoyer, on écoute les maps à peu près.
Parce que j'ai regardé, parce que j'ai trouvé ça complètement idiot. Quand j'ai vu cette chicane avec le demi-tour, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi on fait pas? Et en fin de compte, j'ai eu des explications en écoutant des interviews, les gars qui disaient, ouais, en fait, ça s'est décidé la semaine avant, et au niveau des autorisations, on n'avait pas le droit de faire ci ou ça, mais que les années à venir, si on veut éviter ça, on fera le tour. Oui, c'est logique. Après, moi, je trouve que ça a quand même enlevé un peu de son charme parce que.
Ouais, arriver à.
Moi, tu sais,
moi j'aimais bien les voir arriver à 65 à l'heure dans Arambert.
Je vois bien le truc.
Tu sais, ce que je trouve qui a perdu un peu de son charme, c'est la cyclo-sportive Roubaix. J'ai regardé la liste des finishers et j'ai pas vu Anthony Colas.
Ah oui, c'est vrai, t'étais où?
Et pourtant ça a piaillé toute l'année. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je vous ai attendu, je vous avais lancé un petit peu. Je n'y ai pas été.
Mais nous, on est des grimpeurs. Oui. Nous, c'est une cyclo-sportive Lombardia, on va y aller, mais Roubaix.
Oui,
on saute sur les pavés.
Nous, il ne faut mieux pas qu'on essaie, parce qu'on va plier le matériel assez rapidement, vu notre technique à la
non, après, Anthony, vu les sorties qu'il met sur Strava à 22 km/h, je pense qu'il vaut mieux pas refaire Roubaix tout de suite.
Ah, ça attaque, attends. Vas-y,
mais je lui ai déjà dit, c'est quand tu veux ou tu veux.
Bon, vous faites ça ensemble ou vous faites un appel?
On s'arrangera,
privé,
on s'arrangera.
Voilà, merci. On va continuer juste sur ce Paris-Roubaix. Gentiment, on va terminer avec les satisfactions, déceptions. C'est ce qu'on fait assez souvent. J'en ai noté quelques-unes. Après, vous piochez comme vous voulez, vous en donnez d'autres. Et la Groupama FDJ, je trouve que, avec deux coureurs comme Kung et Pitti dans le top 10, c'est pas mal. On a la Visma dans le négatif plutôt, même si Van Dijk, team je crois, hein, c'est celui-là qui a plutôt bien performé. Pedersen bien aussi, à son niveau en tout cas. Les Français un peu moins. Et puis voilà, ce que j'ai noté, Jérémy, c'est satisfaction, déception.
Alors déception, je l'avais un petit peu sorti du lot pour être un acteur de la course. Et il a un peu triché, voilà, il faut le dire. Je suis à Tarling. C'est un peu agrippé à la voiture.
Bon,
heureusement, Nils Polite, qui était mon deuxième Dark Horse, a sauvé un petit peu la mise. Oui, Pedersen, satisfaction. Les Groupama FDJ, satisfaction, et les Français, pas une déception, parce qu'il n'y a jamais de déception quand il n'y a pas d'attente.
Bravo, et bien c'était très concis. Anthony, satisfaction, déception?
Ok.
la déception, tu la connais, bien évidemment.
C'est pas Van Aert.
C'est Van Aert, voilà.
Il est en... c'est pas possible,
non,
hein, d'être
oublie,
en...
Oublie-le, c'est comme si...
Bah non, mais je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas.
C'est un 33 tours, Anthony.
Personne ne peut l'oublier.
Les absents ont toujours tort, donc oublie-le.
Il a manqué. Après, ouais, non, la FDJ, bien, mais encore une fois, pas récompensé, notamment Kung.
Je crois que ça s'appelle Française des Jeux.
Ouais, la Groupama.
Il a aucun...
La FDJ, tu es...
La FDJ, voilà.
Enchaîne.
Non, mais ouais, Kung, mais il finit même par me faire mal au cœur, quoi. Kung, je veux dire, Kung, putain, Kung. J'ai vu la vidéo de Shimano, là, sur les réseaux, il est au bout de... Mais il sera jamais récompensé. Il tourne vraiment autour d'une vraiment une vraie belle victoire. Et
il ne peut pas gagner, Stéphane Kung, parce qu'il ne fait jamais de différence quand il attaque et il n'avance pas au sprint. Donc il est condamné à faire toujours entre 3 et 5.
Parce que, putain, il va faire toute sa carrière comme ça.
Ah oui. Ben oui, mais regarde, un Fletcher, il a fait ça, il a jamais gagné. T'as plein de coureurs comme ça qui sont toujours présents.
Il a une bonne gueule, j'ai envie, moi.
Oui, bah d'accord, il a une bonne gueule. Mais c'est pas avec une bonne gueule que tu gagnes Paris-Roubaix. Hein.
Après, la déception, Pidcock, pas vraiment de déception pour moi.
Ah, il marchait plus la semaine avant. Et ça, maintenant, il s'est mis à rouler d'un coup. Il s'est dit, tiens, je vais faire Paris-Roubaix, ça va me remettre d'aplomb.
Ouais, c'est Pidcock. D'ailleurs, on voit se pointer le matin même, je crois. Enfin, la veille, il sort sur la truc, sur la line-up. Personne ne l'attendait là. Mais Pidcock, pour moi, c'est un gars qui est trop léger, de toute façon,
je suis d'accord.
Pour le pavé. Donc, on voit bien qu'il faut quand même avoir du poids un peu sur le pavé. Donc... Le voir se présenter là, il fait du Pidcock, quoi. Puis il vient, il dit j'ai pas roulé, j'ai pas regardé les trucs, enfin comme d'hab.
À la Pidcock, quoi. Ouais. À la Pidcock.
On a perdu aussi des outsiders. Lascano de la Movistar, je l'ai pas vu du tout de la journée. Après, il y en a qui ont peut-être eu des incidents mécaniques assez tôt, ça, notamment pour la porte. Hein, ça a directement été.
Il y en a plein qu'on n'a pas vu. Milan.
Si, on l'a vu, Milan.
Merlier, par contre, c'est un peu dommage. Hein, parce que ça, je l'ai pas vu. Apparemment, ça s'est mis une belle boîte en début de course. Ça, par contre, Merlier, c'est dommage parce que. C'était peut-être le seul de la Soudal capable de faire quelque chose.
Non, je vais pas dire ce que j'ai envie de dire.
Ah, très très bien, parce que j'attendais une grosse punchline, mais finalement rien n'est sorti. Non.
Non, mais je sais pas pourquoi vous voulez voir Merlier gagner.
Putain, je vais peut-être dire.
Peut-être qu'il
n'a pas les mêmes motivations que nous quand tu regardes une course de vélo.
Ça, je le sais bien, malheureusement. Bon.
Non, j'étais sur le vélo quand il est tombé.
On va tourner la page de Paris-Roubaix, ça y est, parce qu'il y a d'autres échéances qui arrivent. Il y a les Ardennes.
Non, ma saison, elle est finie quand Paris-Roubaix
termine. Ça y est, terminé pour toi. Bon, pour
Anthony. La prochaine date, c'est Beringen, c'est le cyclocross.
Ouais, voilà. On a le temps. Bah, Anthony, c'est pareil. On va plus le voir derrière. Déjà qu'on le voit plus. Il y avait quand même d'autres courses.
Ouais, bah vas-y, on en parle quand même.
Voilà, on attaque.
Parce qu'après, on va dire que je suis quoi ? Je suis condescendant.
Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse aujourd'hui. Bon, il y avait d'autres amusements. D'ailleurs, en parallèle de Paris-Roubaix, on avait le Tour du Pays Basque, même si ça s'est terminé la veille.
C'est un bel amusement.
Avec la victoire de Juan Ayuso. Je voulais en parler parce qu'il y a aussi les chutes. On va pas les. Beaucoup plus loin non plus, mais je voudrais bien avoir l'avis d'Anthony là-dessus. Et on a aussi un petit peu de transfert, puisque info RMC Sport, qu'on a lu tout à l'heure, Lenny Martinez, donc, qui aurait signé, ça y est, chez Bahreïn. Et en parallèle, il y a Pity aussi qui part chez Bora. Ça, je ne sais plus quel média l'a annoncé, mais bon, on savait déjà que c'était ciao, bye bye. Mais voilà donc ce qu'on veut aborder dans attaque, on n'attaque pas. D'abord, l'avis d'Anthony sur ses chutes. Qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce que c'est les oreillettes, comme certains papis le pensent ? Est-ce que c'est un problème de monture qui, maintenant, sont moins souples et ne permet plus de faire des virages à 100% Enfin, je ne sais pas. C'est quoi ton avis ?
Ouais, je pense que c'est un ensemble de choses, en fait. Alors oui, les oreillettes, on tape dessus depuis des années en disant que oui, mettre de la pression. Oui, c'est vrai, dans les oreillettes, tu as de la pression. Mais dans les oreillettes, il faut aussi savoir que tu as aussi des bonnes informations. Parce que quand un coureur qui en échappé devant, s'il prend un virage qui n'a pas été répertorié par le roadbook, qui est dangereux, qui a des gravillons, il va balancer l'info à la voiture ou même direct à ses collègues, et l'info va faire boule de neige, et donc l'info est bonne. Donc il ne faut pas tout le temps blâmer les oreillettes, d'une. Après, de deux, oui, le matériel a évolué. Alors j'ai entendu il y a plein d'idées qui ressortent maintenant, tout le monde a plein d'idées, mais il y a plein de trucs qui ne tiennent pas debout, bloquer les braquets, voilà. Ouais. On n'est pas revenu chez les cadets et les juniors.
J'allais dire.
Non, mais aujourd'hui, on est en train de se battre pour que les vélos roulent de plus en plus vite et on va vouloir bloquer les braquets des coureurs. Ce qui va se passer, c'est que les coureurs avec le braquet bloqué vont vouloir essayer de suivre à toute fin dans les virages des autres parce qu'ils ne pourront pas relancer, parce qu'ils vont être bloqués en braquet. Ça va être encore pire dans les virages, enfin, je pense. Moi, il y a quand même une chose, et d'ailleurs, je vous l'ai dit sur notre petit groupe de discussion, si vous regardez la fameuse chute du Tour du Pays Basque, les vidéos qu'on voit, où on voit
Renepoel
faire un travers de ouf, vous avez quand même... Alors, c'est pas un virage. Le virage n'est pas très prononcé. Enfin, il a l'air dangereux, il a l'air cabossé, il n'est pas très bien, c'est sûr. Mais vous avez quand même, sur les quatre premiers coureurs qui apparaissent sur l'image, trois coureurs qui ont les mains en cocotte. Alors, je ne veux pas dire que c'est à cause des mains en cocotte qui tombent, hein, mais les mains en cocotte, vous avez déjà d'une une position qui est plus haute, donc vous avez un centre de gravité qui est plus haut. Vous avez aussi les mains qui peuvent glisser simplement sur une bosse, ce qui s'est peut-être passé parce que soi-disant qu'il y avait des racines qui faisaient gondoler le goudron, donc ça peut aussi arriver. Ça, c'est des choses qu'on apprend à des mômes en école de vélo. Les descentes, c'est les mains en bas. Dans le creux du cintre, vous attrapez vos freins en bas. Déjà d'une, vous avez beaucoup plus de force. Alors maintenant, ils n'ont plus besoin de cette fameuse force dans les doigts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des freins à disque. Donc maintenant, il y a aussi cette chose-là. On dit oui, les freins à disque, c'est sensationnel. Oui, j'ai fini par y arriver. Oui, c'est très bien. Oui, la puissance de freinage. Mais oui aussi, il y a l'excès de confiance. Les gars savent que les vélos prennent très fort et du coup, prennent un peu plus de risques aussi. Ouais. Donc, je pense qu'il y a tout un ensemble en fait, de choses. C'est un peu trop facile de dire c'est les oreillettes, c'est un peu trop facile de dire c'est les vélos. Je pense que c'est un ensemble. Après, il y a aussi peut-être, alors là, pas en l'occurrence, pas dans ce virage, parce que là, c'est vraiment, ils ont été un peu trop, avec un peu trop de cœur, mais il y a des choses qui se passent dans le peloton. On voit des mecs maintenant frotter, mettre des coups de coude, c'est des ça. Machins. Il y a aussi peut-être aussi un manque aussi un peu de respect entre eux. Donc,
C'est ce que blâmaient certains coureurs d'ailleurs, c'est ce problème de comportement. D'ailleurs, l'UCI veut mettre en place carton jaune, carton rouge. Je ne sais pas si vous avez vu, pour un mec qui fait le guignol dans le peloton, on lui met un carton jaune comme au football pour avertissement et ensuite carton rouge s'il continue à avoir des comportements un petit peu.
Mais est-ce que ça va... Alors après, il y a aussi un truc, juste rapidement, je finis sur les chutes. Là, on nous dit oui, ça tombe. J'ai vu quelque chose passer hier soir sur Stade 2, un graphique avec des nombres de chutes. Et je me suis fait un peu la réflexion quand j'ai repensé à toutes ces chutes. Faut aussi dire une chose, c'est qu'il y a, je pense, plus de courses de vélo qu'il y a un certain temps. Et puis, il y a aussi une chose, aussi maintenant, il y a plus de courses télévisées. Donc, est-ce qu'il y a vraiment plus de chutes ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a vraiment plus de chutes ?
On a tout en intégralité maintenant.
Est-ce qu'on voit plus de chutes ? C'est ça aussi qu'il faudra savoir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, oui, on voit des chutes, mais il faut se dire qu'on voit des courses de vélo tous les jours et quasiment en intégralité pour la plupart. Donc, effectivement, on a plus d'images. Voilà, il faudrait vraiment calculer le truc pour vraiment savoir si vraiment il y avait plus de chutes qu'à l'époque.
D'ailleurs, il y a un type dans le chat qui dit, par exemple, Roglic, il n'a pas fait d'école de vélo, Remco non plus, Jevine non plus. C'est peut-être aussi du pilotage chez les jeunes qui manquent aussi. Hein, parce que...
Remco, si vous regardez la chute, mais c'est une dinguerie, il freine même pas.
Hein. Ouais, bah, il fait un tout droit et puis après, il laisse emporter.
On voit, il a les mains cocottes, justement, il est deuxième, je crois, troisième à ce moment-là. On le voit traverser l'image, mais on ne voit même pas ses mains, je ne sais pas.
On fait plus attention aux watts peut-être maintenant que la technique, toi, on compare avec
les watts Van Der Poel. Mais tu veux dire en général. Ouais,
voilà, c'est que tire des gros bouts droits, soit le plus fort sur le vélo, et puis après la technique, on t'amènera avec les équipiers. Je sais pas si. Bon, non, Jérémy, t'as compté longuement Anthony, j'ai vu.
Mais Anthony a dit des choses justes. C'est difficile d'avoir un avis en n'étant pas actuellement dans le peloton. Plusieurs choses. Déjà, je suis content de voir qu'Anthony prend conscience qu'il y a beaucoup de chutes dans le cyclisme masculin, parce que quand on l'écoute d'habitude, et c'est pas le seul. C'est que sur le cyclisme féminin.
Et puis aussi dans le graphique qu'il y a eu hier soir à Stade 2, il y a les filles du côté dedans.
Bah, tu leur demanderas, tu les appelles, il y a que toi qui regardes Stade 2.
Non, mais c'est bien qu'on prenne conscience qu'il y a.
Il y avait des courbes avec des années et on était déjà beaucoup au-dessus des autres années.
Oui, c'est ce que j'avais remarqué. On était à 150, d'habitude, il y a 240 chutes dans l'année, je crois, un truc comme ça.
Ouais, après, depuis que Nicolas a pris sa retraite, je trouve qu'on a rabaissé la dangerosité du peloton. Mais bon, ça c'est un autre problème. Non, mais
il faut dire autre chose, c'est qu'avant, il n'y avait pas de course de filles. Enfin, il y avait beaucoup moins de courses de filles aussi. Donc, si on commence à compter, vous voyez ce que je veux dire ? C'est que si on compte beaucoup plus de courses, il faut aussi faire le prorata.
Oui, mais bien sûr.
James,
bien
sûr. Automatiquement, James, plus de courses, plus de chutes.
James, c'est toi.
La pile, enlève la pile.
Je pensais avoir invité Anthony. J'ai pris James. Il s'arrête plus.
Bon, non, mais je vais pas résumer ce qu'a dit Anthony. Juste quelques précisions par rapport aux oreillettes. Moi, je suis d'accord. Je pense que le problème n'est pas là. Et si on interdit les oreillettes, eh ben, on interdit la possibilité aux directeurs sportifs les plus précautionneux d'avertir des dangers en complément de Radio Tour. Parce que certains disent oui, il faudrait mettre que Radio Tour. Mais Radio Tour n'annonce pas tout. Hein. Radio Tour annonce les dangers principaux, annonce les lâchers, les attaques. Mais tu peux avoir un directeur sportif qui a pris du temps pour lui, qui a repéré 3-4 fois le parcours, qui le connaît par cœur et qui va faire la différence. Et c'est pas un hasard si certains tombent et certains tombent pas de manière globale sur l'année. Les organisateurs, pour moi, ont une responsabilité sur certains finales d'étape.
Aussi.
C'est quand même assez régulier qu'en Espagne, notamment, on voit beaucoup de choses scandaleuses. Ce n'était pas forcément le cas sur la route empruntée. Par contre, c'est inadmissible d'avoir des rochers comme ça à un mètre de la route en sortie de virage, d'avoir une cuve en béton et qu'il ne soit pas un minimum protégé. Quoi.
Mais
tu peux mettre des mousses, tu peux mettre n'importe quoi.
Mais tu te rends compte, Jérém, mettre des mousses sur une étape comme ça qui fait 150 bornes.
Mais ils ont protégé l'entrée du virage. Pourquoi ils n'ont pas protégé la sortie? Tu as des rochers énormes. Si tu as le moindre gars qui porte trop à l'extérieur, il se mange le rocher. Et ça n'a pas loupé.
Enfin, ça serait un parapet, c'est pareil. Je veux dire, ils s'étaient loupés sur un parapet qui passe au-dessus.
Oui, mais il y a quand même des endroits qui sont particulièrement dangereux.
Tu peux pas mettre des couloirs de boudin.
Je suis d'accord. Mais il y a quand même des trucs qui sont pas admissibles. Tu peux pas avoir des rochers comme ça à un mètre de la route. Tu le vois quand tu fais la roco. Alors tu te dis pas que tout le monde va tomber. Tu t'imagines pas une catastrophe comme ça. C'est toujours plus facile de parler a posteriori. Mais je pense qu'il faut quand même prendre conscience que voilà, tu as un danger. Tu as le peloton qui roule de plus en plus vite. Tu es dans une descente. Tu peux avoir un problème, un coureur qui tire tout droit, et à ce moment-là, bah, c'est mieux d'avoir des mousses. Bon, mais ça, c'est une partie du débat. Pour le reste, je vais quand même vous réorienter vers ce qu'a dit Jonathan Hiver sur Twitter,
oui, c'est vrai,
qui lui a un avis complètement différent de ce qu'on a entendu. C'est une course de vélo, il y aura toujours des risques, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre des balises, des avertisseurs, des oreillettes, pas d'oreillettes. C'est une course de vélo, il y aura toujours des risques.
Oui.
Il y aura toujours des mecs qui feront tout pour gagner, parce que si tu t'alignes au départ d'une course, c'est pour la gagner. T'as des barjots dans le peloton, les sprinteurs qui sont des kamikazes, qui mettent le cerveau en mode off lors des arrivées. Donc tu ne peux pas empêcher les chutes. Et moi, sincèrement, j'entends toutes les idées. Peut-être que certaines sont bonnes, peut-être qu'il faudra piocher, alors à dose homéopathique ou pas, dans certaines idées. Mais globalement, le cyclisme est un sport dangereux et ça le restera quoi qu'il arrive.
Comme, comme dans les sports mécaniques, moto, Formule 1. Ça
mais par contre, la nervosité du peloton, et ça, je crois que c'est Steve qui en parlait, parce qu'il a eu des retours avec des coureurs de la nouvelle génération qui seraient moins respectueux, etc. Moi, évidemment, je n'ai pas couru, je ne peux pas le constater, mais ça revient quand même de plus en plus souvent et c'est peut-être là aussi qu'il y a quelque chose à faire. Donc l'idée de carton, moi, pourquoi pas, sans aller jusqu'à l'exclusion de la course. Bon, évidemment, hier, ça arrivait avec Tarling, mais tu peux imaginer que bah, un mec qui soit un peu limite sur 2-3 sprints, bah, il soit sanctionné sur une course. Tu vois, Matthews, par exemple. Matthews, San Remo, Tour des Flandres, t'es pas obligé de l'exclure ou de le reléguer. Par contre, tu peux lui dire, voilà, là, c'est carton jaune, la prochaine fois, t'es suspendu, suspendu deux semaines.
Philipsen
aussi, mais voilà, mais tous. Merlier qui teste Philipsen, c'était où? C'était en Belgique. Je sais plus où c'était. C'était une semi-classe. C'était pas Donkeré, c'était une arrivée sur le plat.
Je me souviens plus.
Je sais plus, mais.
Ouais, non, mais.
Le Trail de Prey, c'était le Trail de Prey.
Bah, d'ailleurs, ça pourrait être une solution, c'est vrai. Juste.
Tous les autres sports le font, hein.
Oui, bah voilà. Avec des pénalités.
Là, c'est un sport individuel, voilà. Mais c'est aussi un peu un sport d'équipe. Donc,
Et
puis, ça éviterait aussi les poissons pilotes impunis. Parce que les poissons pilotes, quand ils s'écartent pas, qu'ils gênent derrière. Ils peuvent être déclassés, pas déclassés, ils s'en foutent.
Ouais. Ah, ça c'est pareil, j'ai vu des trucs l'autre jour.
Mais regarde.
Des lignes sur les côtés.
Non, mais Anto, là tu vois toujours dans l'extrême. T'as des poissons pilotes qui s'écartent. Van Poppel, il s'écarte. Van Der Poel, il s'écarte. T'as des mecs, Morkov, il s'écarte jamais, par exemple. T'as des mecs qui vont tasser. Parce qu'ils savent que derrière, s'ils sont déclassés, ça aura pas d'impact sur leur coureur. Par contre, si tu dis, tu prends ton carton jaune et tu finis pas le tour, ils vont réfléchir à deux fois.
Où est-ce que c'est écrit que le poisson pilote il doit s'écarter?
Il faudrait peut-être l'écrire.
Bah,
mais comment tu vas déterminer qui s'est écarté
après,
ou pas?
Comment tu vas déterminer? C'est comme les mains, c'est comme les pénalties au foot. Après, tu as une appréciation, tu as des mecs qui pourraient être là pour
toucher. C'est comme ça qu'ils déclassent Matthews parce qu'il fait un virage.
Exactement. On a toujours fonctionné comme à l'appréciation. Hein. Matthews, sincèrement, tu mets 10 fans de vélo derrière la télé, tu en as 5 qui vont dire il faut le sanctionner et tu en as 5 qui vont dire non.
Moi, je suis plutôt dans le nom d'ailleurs à ce moment-là. Bon, on enchaîne juste petit mot parce que, bon, Tour des Pays Basques, bravo à Ayuso. Vauclin aussi dans le top 10, c'est pas mal. Encore, ça confirme. Sur les transferts, Lenny Martinez et Pity, on le savait, on en a parlé longuement. La Groupama EDJ se fait saigner en ce moment, ça c'est clair. On va voir ce qu'il en advient dans les prochaines semaines parce que ça pourrait pas être que eux deux. Vingegaard, les dernières infos, elles ne sont pas très bonnes, notamment sur sa participation pour le Tour de France. C'est a priori, selon certains médias néerlandais et danois, c'est plus un non à la participation qu'un oui pour l'instant, parce qu'il ne pourrait même pas participer au stage au mois de mai habituel pour la Visma.
Au vu des images là, qu'ils nous ont montrées, qu'ils n'auraient pas dû nous montrer d'ailleurs, hein, de son évacuation, de l'oxygène et tout, à ce moment-là, le Tour de France, à mon avis, c'est le dernier de ses soucis.
Donc voilà, ça serait dommage.
Même mais... pour Van Aert, hein, moi, il n'y a pas beaucoup de trucs pour Van Aert, mais.
Ouais, pour le Giro, ouais, on en a parlé.
L'épaule, c'est rien, les côtes, c'est, ça va être terrible. Hein.
Ouais, ouais, bah, et beaucoup ont été touchés au poumon aussi. C'était le cas de Steph Kras aussi. Enfin bref,
beaucoup moi j'avais beaucoup peur pour le coureur du AE. Là, c'était, je sais plus
c'était pas quoi. C'était Vine.
C'était pas Bax.
C'était pas Bax, c'était Vine.
Ouais, je sais pas, vous avez eu un débat, mais moi longtemps il a pas bougé à l'image. Ouais,
il respirait, hein, on le voyait respirer, mais c'est vrai que.
Ah ouais, moi j'ai pas bien vu. Tout le monde était focus sur Vingegaard. Alors, oui, c'est ça, c'est très dangereux aussi.
Là pour le coup, gros carton.
Vraiment très peur. Il était couché sur le dos comme ça sans bouger.
Gros carton à la réalisation, hein, parce que déjà tu dois pas montrer et puis alors après tu vas faire un clip musical avec la chute, les replays et tout. Non mais on est où là en fait? Tu as des mecs qui sont peut-être entre la vie et la mort, tu le sais pas à l'époque, et toi tu fais un clip musical en mode le best-of.
On avait eu le chute de Jim Lader, il aurait montré en 2024.
Mets toi un peu à la place des familles aussi.
Ah non mais carrément, mais attends, mais je suis le premier à te dire que moi, j'ai pas regardé les images. J'ai même d'ailleurs Louis Pierre qui était au commentaire a demandé même plusieurs fois.
Bien
sûr. Je ne pouvais pas pouvoir y faire, mais ça foutait le poil. Et quand tu vois des mecs comme ça, c'est
horrible.
C'est
affreux. Donc, certains disent que Pogacar est en train de se frotter les mains.
Pogacar, il n'est pas à l'abri de tomber non plus. Tu vois, à un moment donné, il ne faut pas non plus tout voir sur le prisme du sportif. Il y a un moment pour tout. Le Tour de France, ce sera dans 4 mois. Un peu moins maintenant.
Il faut plutôt voir aussi la santé des mecs qui se rétablissent correctement. Ouais, exactement. Plutôt que de commencer à regarder qui va gagner le prochain.
Il y a largement le temps de parler du Tour.
C'est clair. Et d'ailleurs, Babas dit dans le chat que Eurosport a derrière, notamment lors des replays, a supprimé ses replays derrière.
Oui, effectivement, c'était plus possible de voir la course. Et honnêtement,
au montage.
Et honnêtement, vu que la course avait aucun intérêt, ils gagnent, mais on lui a dit victoire World Tour. Si on peut dire victoire World Tour.
C'est incompréhensible. C'est comme pour l'étape décision en Vuelta où ils ont gelé les temps avec une
médaille. Moi, j'ai arrêté de regarder le Tour du Pays Basque après celle-ci.
Non, mais surtout, pourquoi tu laisses courir les échappés en disant vous gelez la victoire?
Heureusement qu'il n'y en a pas un qui s'est foutu au tas, parce que qu'est-ce qu'on aurait pas.
Il y en avait un qui chutait derrière. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Et on va passer à autre chose parce qu'on a beaucoup parlé dessus. On va passer aux Ardennes parce qu'on y arrive quand même finalement.
Allez mon petit, on en remet là,
Donc là, juste un truc, je coupe ton lancement, mais on vient de faire donc 45 minutes de podcast.
On a
passé par Roubaix, pas un mot de la victoire de Kopecky.
C'est vrai.
Parce que moi, je voulais avoir l'analyse d'Anthony sur la victoire de la championne du monde.
Je m'excuse auprès de tout le peloton féminin et des suiveurs du cycle féminin. J'ai oublié de le noter et il fallait me le refaire. Non, justement, tiens, on a fait un nouveau jingle. On va parler gentiment de Paris-Roubaix quelques minutes.
Parlons au moins une minute de la victoire de Kopecky.
Il y avait du suspense.
Il y avait du suspense. On a eu une très belle course. Une Kopecky qui était nerveuse,
mais
qui
s'est dévoilée
de loin, qui a beaucoup attaqué, qui n'a pas forcément toujours eu le comportement adéquat, tactiquement parlant, évidemment, mais qui s'en sort quand même, qui se fait enfermer dans le sprint, qui prend à l'extérieur. Elle était trois jambes au-dessus de tout le monde. SD Works n'avait jamais gagné, Kopecky n'avait jamais gagné. Elle gagne avec le maillot arc-en-ciel. Elle vient aussi réparer l'anomalie du début de saison sur les classiques. Donc finalement, c'est une course qui restera dans les annales pour tout le monde. Et si on doit faire un comparatif, j'aime pas faire ça. Et surtout, ça n'a pas grand intérêt. Mais depuis le début de saison, on prend quand même vachement plus de kiff à regarder les femmes que les mecs.
C'est un peu plus équilibré. Souvent, on disait que c'est l'inverse. Souvent, on disait que SD Works s'écrase toute la saison et tout. Là, franchement,
moins le cas.
J'ai vu une FDJ Suez très offensive.
Très offensive.
Avec Amber Crack qui finit dans le top 5. Mais surtout, les attaques un petit peu partout. Elles ont été là. Franchement, j'ai vu beaucoup de choses. Lidl Trek aussi a essayé.
Pourquoi il rigole, Cochonou, là?
J'ai failli sentir une dinguerie, mais heureusement, j'ai...
Calme-toi quand même.
Voilà, beaucoup de bonnes choses. Marianne Vos, elle était aussi tout près. Vous voyez que c'était la deuxième plus forte derrière, mais elle s'est fait complètement piéger dans le sprint.
Ouais, elle était...
Marianne Vos, moi, je veux juste dire ça. Quel retour quand même.
Ah oui,
moi, Jérém, cet hiver, on la voyait pas faire de cross. L'année dernière, on la voyait pas et tout.
Et puis, sans opération, c'est quand même un truc assez lourd. Hein. Tu reviens pas comme ça.
Ouais, c'est
à son âge, à son âge et tout. Enfin, à son âge, je n'ai pas.
Bah, si, elle a quand même
36,
ouais,
hein.
Ouais, 36 ans.
Ouais, mais je vais dire, l'artériaque, tu reviens. Retour de Vos, quand ouais. On a gagné quelques-unes pas mal. Hein. Je regarde un petit peu comme du coin de l'œil souvent.
Du coin de l'œil, ouais.
Ouais, un 250, hein, t'as beaucoup de résultats rattrapés pour elle. Mais...
La dernière course qu'il a regardé, je pense que c'était le Tour de France en 2022.
Non, c'était le championnat du monde de cyclocross. Hein.
Ah oui, voilà, c'est vrai. C'est vrai.
Non, mais vraiment, c'était une très très belle édition.
Voilà, au moins on en a un petit peu parlé parce que je pense que ça méritait. Non,
tu as raison, j'ai oublié c'est ma faute, j'ai oublié de passer dessus au moment. Tu sais,
j'ai pas regardé le conduit qu'avant.
Je diffuse.
Ça va arriver, mais
que des surprises, On se remet
le jingle. On enchaîne.
Allez, on se remet le jingle.
Allez, mon petit, on en remet là.
Voilà, on en remet pour les Ardennaises, donc que l'on va s'apprêter à vivre avec peut-être un petit peu moins d'entrain que pour les classiques pavés, parce que Remco donc est blessé, il a été opéré d'ailleurs dernièrement, tout s'est bien passé. Pas de Van Aert, même si c'était pas vraiment son objectif, on n'est pas sûr s'il y passait. Pogacar ne fera que Liège normalement. Roglic incertain pour les Ardennaises. Bon, finalement, il reste plus grand chose. Déjà pour l'Amstel, je sais même pas qui mettre sur la feuille pour dire je suis favori, parce que voilà.
Alors Amstel et Flèche, effectivement, ouais, ça semble, hein, très ouvert. Alors t'as des noms, hein. J'ai vu un Benelli très bon là sur le région
Pays de Loire Tour. Oui, très très bon.
Ouais. J'ai regardé cette course-là en plus.
Voilà. Après pour Liège, il y a quand même un duel qui se dessine. Il y a un duel qu'on n'a pas eu sur le Tour des Flandres, mais ça sera Pogacar Van der Poel. Alors d'accord. Évidemment, le profil avantage plutôt Pogacar, mais Van der Poel sur la forme actuelle, je dis pourquoi pas.
Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de questions. Est-ce que Van der Poel peut gagner Liège-Bastogne-Liège? Anto, est-ce qu'il est capable? Est-ce que c'est... Bon, c'est toujours dans ses cornes. Hein. Il peut gagner à peu près tout. On l'a vu sur les derniers mondiaux où il a pu faire la différence sur un profil vallonné, même si là, c'est un petit peu plus difficile.
Bien plus dur, ouais.
On ne va pas se mentir. Mais est-ce que tu le vois batailler avec Tadej?
Et c'est là, c'est ça qu'il a dit qu'il allait faire et qui n'était pas trop prévu, mais qu'il va y aller.
Non, alors c'était prévu, mais c'était à confirmer. Et il a dit hier, j'y vais.
Alors, il a fait que 5 jours de course depuis le début de l'année. Il peut se permettre de rajouter une petite coursette par-ci par-là.
Enfin, 5 jours, au rythme où il a fait, c'est comme s'il avait fait un mois.
Ouais, hein. Ouais, mais attends, il a fait 5 jours, mais bon, là, je veux dire, le pic de forme, il ne va pas durer non plus.
Ouais, qu'il en profite.
Oui.
C'est le 21.
C'est le 21, 2 semaines.
Oui, oui, vélo, ça continue. Hein. Tu sais, il y a le Tour de France, il y a le Tour d'Italie.
Ah, mais je regarde un peu le calendrier en même temps.
Il y a la Vuelta femme à la fin du mois, ça va t'intéresser, ça.
Voilà, Vuelta femininas. S'il te plaît, Anto, plutôt que de regarder la start list et d'essayer de tricher le quiz, que ça arrive, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu crois en un duel vraiment Van der Poel-Pogacar? Est-ce que tu crois que ça peut être un duel?
Ouais, je pense que c'est possible.
Oui,
merci.
On va pouvoir faire une belle page ardennaise.
Non, alors moi j'ai quand même quelques arguments. Merci. Pour en avoir discuté un petit peu, notamment avec les journalistes de l'équipe et de Vélomag, qui sont très pointus sur tout ce qui concerne l'entraînement, etc. Et il s'avère, et ça il faut insister là-dessus quand même, que la préparation pour les Ardennaises et pour les Flandriennes, c'est deux choses complètement différentes. Ah, oui. Dans un cas, tu prépares des efforts courts, maximum de 3 minutes pour les ascensions d'amont, des efforts très explosifs. Pour Liège-Bastogne-Liège, là, tu passes sur des efforts qui sont quand même beaucoup plus longs, où le poids aussi rentre en considération. Et là, le poids d'un Tadej Pogacar ou d'un Mathieu Van Der Poel, c'est pas le même, évidemment. D'un côté, on a un grimpeur, ouais. D'autre côté, on a un mec qui est bien plus fort.
Autour de 75 pour Van Der Poel.
74, et 15, effectivement.
Ouais, et 15 de moins quasi pour Pogacar.
La différence aussi, quand tu regardes le passé, c'est que je pense que les doublés... Alors là, j'ai pas préparé de stats, mais je pense que les doublés Roubaix-Liège doivent pas être légion la même année. Un Philippe Gilbert... Évidemment, a gagné les deux,
la même année,
mais pas la même année, et surtout pas avec la même préparation. Quand il visait les Flandriennes, il essayait de gagner les Flandriennes, et derrière, il n'y avait pas d'Ardennaise, et inversement. Et ce qui va se passer avec Mathieu Van Der Poel, c'est qu'il va y aller, à mon avis, un petit peu en mode découverte. Il va se dire, sur la forme, sur le talent, il y est déjà allé une fois, il a fait sixième, mais il n'avait pas pesé sur le scénario, et il se dit, pourquoi pas, pour tâter le terrain. S'il y a possibilité de gagner là, tant mieux. Sinon, je prends mes marques pour gagner dans le futur parce que l'objectif, évidemment, c'est de compléter la collection de monuments.
Je suis en train de regarder.
Ah, mais il a jamais fait Liège.
Si, il a fait Liège, il a fait sixième en 2020.
Alors là,
c'est quoi,
c'est l'année où Roglic gagne, où Alaphilippe lève les bras.
Ah oui,
il est dans le sprint.
Et lui, il règle le peloton derrière.
Voilà,
il règle le peloton.
Le sprint derrière dans le petit groupe qui s'est fait avoir par tout
le monde. Moi, je les confonds tout le temps. Là,
je suis en train de regarder. Donc, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège.
Paris-Roubaix,
Liège-Bastogne-Liège. Eddy Merckx l'a fait en 73.
C'est tout?
Voilà. Bah, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais j'en ai regardé.
Non, mais tu vois, c'était une autre époque.
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire. Et je serais tenté de te dire, maintenant qu'il n'y a plus Remco, c'est aussi une bonne nouvelle pour lui, parce que Remco, c'est quand même le gars qui aurait pu tout faire exploser dans la redoute. Il part avec Pogacar, tu ne le vois plus. Là, Pogacar, il va être marqué, évidemment. Je pense qu'il va arriver dans un gros état de forme aussi. Hein. Tu as des Pogacar, il a été épargné, il a fait un super début de saison. Donc, le duel va être intéressant. Si tu me demandes de miser une petite pièce, je mise quand même plus sur Pogacar.
Je te demanderai sur la
mise. Mais vu le niveau de Van der Poel, et là, pour le coup, il va arriver complètement sans pression, parce que là, la saison, elle est déjà presque réussie. Ça peut jouer en sa faveur.
Bon, par contre, pour l'instant, sur les premières start list, on voit Van der Poel et Philipsen annoncés sur l'Amstel. Van der Poel, je crois que c'est...
Je crois qu'il avait prévu, mais hier, il m'a semblé lire que prochaine course,
ouais, c'est Liège-Bastogne. Jasper Philipsen, ça peut être dans son profil. En tout cas, ça va être ouvert pour ces deux premières courses, parce qu'il n'y aura pas de Cador. C'est fantastique, comme on disait. Et donc, on va pouvoir...
mais tant mieux, en fait.
D'autres courses, mieux sur la flèche, moi,
ça va être génial.
Il n'y a personne au-dessus du lot. Donc, on parlait de Benili, Marc Hirschi, Eskelmose, Ayuso, voilà, qui sont annoncés, des Vlasov, je sais pas. Ça va être. Ouais, je pense que.
Vaut mieux qu'il n'y en ait pas du tout.
Bah oui,
aucun des, qu'un. On l'a déjà dit, c'est pareil, tu me diras en cross. Hein. Vaut mieux qu'il n'y en ait aucun des gros et qu'on ait des courses plus ouvertes. À partir du moment où il y en a un, ça devient presque ennuyant.
Moi au pied, du mur nué, enfin, même si ça va être évidemment grimpé à plusieurs reprises cette année, si on arrive comme d'habitude groupé, je suis incapable de dire qui est le favori. J'essaierai de regarder, ah, lui est placé et tout, il est
mais
bien.
C'est aussi ce qui nous manque, hein, ouais. Ce qui fait le sel du vélo.
C'est bon,
et c'est pour ça que
Pogacar.
Enfin, bah oui, et c'est pour ça que Milan-San Remo est chaque année une valeur sûre, parce que même si tu as un mec au-dessus du lot, il n'est jamais sûr de gagner.
Et on me dit aussi dans le chat, évidemment, on essaye de ne pas oublier le cyclisme féminin, que ça va être aussi une guerre là, dans ces classiques ardennaises pour les filles.
Complètement.
On parle de même une guerre interne entre Kopecky, Vibos et Vollering, déjà pour l'Amstel. Les
ouais, Vibos sur les ardennaises.
Pour l'Amstel, non ? Bah, elle a quand même progressé un peu.
Ouais.
Bon. La fond le mur de huit, les filles aussi ?
Voilà, bien sûr, bah, il y a plusieurs reprises.
Mais il faut vraiment... manque tellement de respect à cette discipline.
J'aimerais qu'un jour le karma arrive jusqu'à toi.
Non, mais c'est honteux, vraiment.
Ils viennent te flageller, mon cher Anto, mais peut-être que le karma peut arriver plus vite que prévu.
Non, mais lui, il croit que tu l'alignes sur la flèche wallonne avec les femmes, il croit qu'il gagne. Hein. Bah, si tu l'écoutes, il gagne.
Ouais,
il bat tout le monde. Hein. Bah, il bat Nevia Doma, Lippert.
Je ne pas avec mes 10 kilos de trop et mes heures de boulot la semaine. Hein.
Ouais, attends, j'aimerais quand même, si un jour c'est possible, si la FDJ Suez, on sait que de ce côté-là, des fois, on nous écoute, puisse préparer ça. En plus, bon, il n'est pas très bien.
Organisons un duel au pied de la
route. Moi, de toute façon, je roule plus sur la route.
Ah, évidemment. Eh ben, on te met contre Marianne Vos, t'inquiète pas.
Voilà, on va te mettre au cyclocross contre Van Empel.
Bon. Donc, le karma.
Regarde, il hoche la tête, jeune. Il croit qu'il peut la battre. Mais ça, ça me terrasse.
Trop jeune. Trop jeune.
J'en étais.
Sur un tour, je dis pas.
Non, mais c'est incroyable.
Vous avez vraiment entendu.
Des podcasts lunaires, on en a fait depuis 4 ans, mais alors celui-là, il dépasse tout.
Je viens pas souvent, il faut que j'en profite.
Oui, t'as raison d'en profiter. Tiens, profites-en aussi pour te manger un quiz.
Allez.
Parce que c'est le moment de faire rentrer le nouveau maître du quiz. Il peut se démuter.
Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
Oh, j'ai pas compris la question, c'est...
C'est parti. Monsieur le fanfaronneur là est prêt pour le quiz et nous avons un nouveau maître du quiz. Jérémy, tu n'as rien préparé.
Ah, écoute, ça...
dans les poches.
Ah ouais, ça fait du bien d'arriver comme ça. Hein.
Mais nous avons la team qui est avec nous pour nous, nous dicter ses règles du jeu.
Attends, il y a Anthony qui est quelqu'un.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Ouais, sacré maître du quiz. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a encore ? On vient là pour torturer Anthony. T'en fais pas.
Voilà, il n'arrive pas à me battre au quiz. Du coup, il trouve un moyen de se venger. Voilà.
C'est la première fois que tu concours.
Anthony, je te rassure, je t'ai vu préparer tes onglets sur l'Amstel Gold Race. Pas des Flandriennes, début des Ardennaises, mais tu peux ranger ta bière.
Allez, range.
Le thème du soir, ce sera pas sur la classique de Valkenburg, ni même sur mon tour du Loir-et-Cher. On va passer en direction de la flèche brabançonne.
Oh du verbe prasser, donc.
Ouais,
hein.
Bah, écoute, on invente des verbes aussi. C'est la première fois que tu es contre. T'as fait rarement des quiz.
Si, l'année dernière. J'étais en voiture pour aller en Allemagne et je lui avais mis 6-0 sur le Tour des Flandres. Et il y avait même Gilou ce jour-là. Mais bon.
Attends, la flèche Brabançonne, c'est pas, il n'y a pas dans Pro Cycling Stats.
je suis mort.
Alors, vas-y. Homme ou femme ?
Non, mais attends.
Hey, tu vas pas non plus.
Regarde-le, il prépare ses onglets.
C'est vrai. Bon. Hey, les mains en l'air, hein. Les mains en l'air, on joue normalement.
Bon, est-ce qu'on peut jouer parce qu'on est 18h56. C'est vrai que il y a le temps.
Après, t'es le bienvenu à la maison. Je vais pas te mettre dehors à 19h. Hein, t'inquiète pas.
Ça fait plaisir. Tu m'invites.
Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, messieurs. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Il y aura des questions à un point, des questions à deux points et une question à trois points. Dans les questions à deux points, on aura des questions à élimination.
Et c'est Koh-Lanta le truc ? Il y a des questions à éliminer.
Bah ouais, j'ai dit
genre tu perds, tu t'en vas.
En fait, j'ai dit.
Attends, il faut expliquer les règles d'abord. Hein.
j'ai prévenu la team, j'ai dit des règles simples parce que Anthony sera incapable de les.
Des règles simples, il y a des questions à 1, 2 et 3 points, il y a des éliminations et tu crois qu'Anthony va comprendre ?
Tu sais, moi pour être dernier, j'ai pas besoin
mais
de comprendre.
Mais t'en fais pas, je te préciserai quand ce sera des choix à élimination. C'est une réponse fausse dehors.
Ah. Bon, bah je me casse, hein. Je me casse de chez moi. Du coup, je vais voir si les voisins veulent bien m'accueillir.
Ouais, bah,
peut-être.
Non, ils sont très sympas, mes voisins.
Ah, bah,
je les présenterai après le quiz.
Bon, est-ce qu'on peut aller à ce quiz là? Ah, franchement, c'est terrible. Sur 56 minutes d'émission, il y a 15 à garder. Allez, c'est sympa.
Allez, je commence simplement avec la première, histoire de donner des chances à Anthony. Dorian Godon chez les hommes est le tournant du titre, mais à qui l'a-t-il succédé?
Pitcock?
Non, c'est faux.
Matteo Trentin.
Non.
Ah, je croyais qu'il avait bien triché.
La réponse est donnée dans le chat.
Ah, c'est Cosnefroy.
Non, c'était Sheffield.
Oh, pardon, j'avais complètement oublié la victoire de Magnus. Ouais, moi aussi, mais j'étais pas.
C'était pourtant la plus facile, messieurs.
Bah, ça promet.
Allez. On va laisser une chance à Anthony sur celle-ci. On va partir du côté des femmes. L'édition 2023 a sacré Sylvia Persico, mais qui était la première française?
Evita Music.
Ah, j'aurais dit non. Evita Music.
C'est faux.
Oh, bah, ça tombe bien.
J'ai le droit de dire une autre?
Juliette Labousse.
Non, c'est faux.
Bon, et là, on t'a laissé un. On a éliminé les deux.
Bah ouais, mais je veux pas dire de conneries. Je vois très bien. En plus, elle bat Lippert au sprint. C'était toi qui avais commenté, il me semble, en plus. Oh, et Volery.
Ah mais oui,
il y avait une meuf de Park Hotel au nom imprononçable, Margot Van de je sais pas quoi, mais
ah oui, t'as raison.
Vous avez dit qui?
On a dit Labousse, Evita Music.
Je vais dire Cordon. Si je vous donne un indice en sachant qu'elle a été déjà donnée dans le chat, elle est championne de France actuellement.
Berthaud.
Ok, bon, ça fait zéro quand même.
Le chat vous met une misère avec Cactus en vélo.
Bah toujours la même.
Cactus, t'es un cador.
Allez, troisième question. On parlait de Sylvia Persico, vainqueur en 2023, mais quelle était l'autre italienne à avoir remporté l'épreuve chez les femmes?
Faut pas faire que les filles, hein, parce que moi.
L'autre italienne, ça doit
Attends,
être.
Est-ce que tu peux donner le nombre d'éditions, s'il te plaît? Juste, est-ce que tu.
Il y en a 8. Okay. Il y en a 8.
Ça m'aide un peu.
Il y en a 8. Je pense qu'il y a un piège dans cette question. Ah,
ouais. Lamborghini.
Bah, moi aussi.
Non, Lamborghini.
Non.
Il a dit Lamborghini quand même. Hein.
Il a dit Lamborghini. Il y a Bastianelli.
Oui, c'est bien Stanley. Ah, poids pour Jérémy.
Merci Jérémy. Alors que le chat l'avait donné juste après.
Tu remontes l'honneur du podcast. Dernière question à un point. Magnus Sheffield, on le disait, s'est imposé en 2022. Mais quel autre coureur non européen a figuré dans le top 10 de cette édition?
Elle est horrible celle-là.
Ouais, Jorgensen.
Non.
Je tentais un truc au hasard.
Michael Matthews.
Oui.
Oh,
bien joué, Jérémy.
Il était en train de chercher. Là. J'ai vu l'œil du tricheur, il était parti. Ok, merde.
C'est complètement.
Voilà, oublié. C'est bien. Ça me fait plaisir de torturer Jérémy. On va passer sur les questions à deux points. Là, il y a deux réponses possibles, mais attention, on va voir les connaissances de notre ami Saakian. Deux coureurs ont cumulé le plus de top 10 sur la flèche wallonne masculine. Quelles étaient
la flèche wallonne, on est passé maintenant.
La flèche Brabanson, pardon.
Ah oui, mais est-ce que j'avais lâché Valverde. Donc le plus de podiums.
Vous voulez des indices?
Ouais, donne tes indices parce que là on va au hasard complet.
Il y a un Belge et un Néerlandais.
Un Belge et un Néerlandais. Alors Gilbert était dans le chat.
Ouais, Gilbert, c'est pas con.
Non, c'est pas Gilbert. Du côté du Belge, on a ce neveu qui a été professionnel et qui est désormais à la retraite depuis le milieu d'année dernière.
Quoi, mais c'est un ancien, ça veut dire. Wow.
Ah ouais, ça doit être un vieux.
Un vieux, bah je vais
le,
dire.
Le Belge ou le Néerlandais?
Le Belge. Bah, les deux sont vieux.
Le Néerlandais, j'ai envie de tenter Dekker.
Non.
Et c'est un vieux, donc je dirais Van Springel.
Non.
Je sais pas, je tire des Rick Van Looy.
Le Néerlandais a été vainqueur de l'Amstel, C'est une figure emblématique de la Rabobank et il a gagné Paris-Nice.
Bogert ?
Oui.
Ah, mais Bogert,
le Belge Capiot.
Et le Belge a été donné par Cactus.
Capiot, il court en encore. Et... Oh
là là là. C'était Edwin Van Hooijdonk.
Ah ouais, ok. Bah alors là, j'aurais jamais eu. C'est comme Maarten van Ejvec.
Hop, donc 2 points pour Cactus, donc le chat, et 2 points pour Jérémy pour Bogert.
Jérémy, nous on joue contre le chat, j'ai l'impression.
Avec Cactus, je joue avec lui, vous savez.
Ah ouais. Ouais. Bah tiens, Anthony, toi qui es si fort, pour 2 points, du côté des masculins, quel coureur tchèque s'est imposé sur la course ?
Stibar.
Stibar.
Non, ce n'est pas Stibar.
Mais Kreuziger ?
Non.
Il a gagné l'Amstel, Kreuziger.
Bah ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai tenté, on sait jamais. Entre... C'est pas vraiment la celle où on connaît le palmarès.
Un tchèque.
Un tchèque, ça peut être... Brajkovic, ça m'étonnerait.
Non, mais il est slovène.
Ouais, super, je dis bien des bêtises.
Un tchèque, je vois pas du tout.
Qui a été à l'Alpecin et à Quickstep.
Ah, Vakoč.
Oui, Vakoč est dévenu par Ben Cassé-Fréter aussi.
Exactement.
Dans le chat, je suis désolé, on est en train de se faire dérouiller par le chat.
C'est une victoire pour le moment. C'est une volée du chat.
Tant que c'est le chat qui gagne, moi ça me manque.
Ouais, parce que tu joues avec eux, on le sait.
Bon, ouais, on passe sur les coureurs à élimination. Une fausse réponse, vous êtes hors jeu.
Ouh.
Et attention, le chat aussi.
Et attends, on est hors jeu pour tout le quiz ou juste pour la question ?
Juste pour la question.
Ah, on peut quand même tenter alors.
Ok. Au 21e siècle, on va se concentrer sur les coureurs français. Quels sont ces coureurs français qui ont remporté la Flèche Brabançonne ?
Cosnefroy, Godon, Alaphilippe.
Chavanel.
Donc, Jérémy est déjà out avec Cosnefroy. Ah,
Chavanel.
Chavanel, c'est bon.
Ah, il a sous les yeux, c'est sûr.
Non, j'ai rien sous les yeux, je suis devant l'écran.
Je vais donner 2 réponses.
Oui, bah alors moi je vais dire Godon.
Sur vélo, il nous a donné Vauclair, c'est bon. On a eu Alaf.
Alaphilippe. Ah, oui. C'est moi qui ai donné.
Je suis
il
mort.
En reste deux. Il deux en reste français. Deux.
Bon, est-ce que c'est des actuels ou pas ?
Il y en a un actuel et un qui est à la retraite. Un ancien coureur de la FDJ pour celui qui est à la retraite.
Anthony Gélin.
Exactement. Et le dernier, il est facile.
Ouais, bah il est facile, c'est sûr, avec la fiche sous les yeux, c'est le dernier est facile, Cavagna.
C'est Dorian Godon, messieurs.
Ah, mais on l'a dit.
En plus, je voulais donner Godon.
Bah oui, je sais.
Non, vous n'avez rien donné du tout.
Oh, ouais. Allez, enchaîne.
Personne n'a trouvé Godon. Bon, on part du côté des féminines.
Oh, le point, elle a dit pour qui, là?
On sait pas du tout combien il y a là. Et alors, attends, maître du quiz, ça s'improvise pas. Tu dois avoir ton papier, tu mets des colonnes.
On me débarre des points là. Là, ils ont dit n'importe quoi tous les deux, j'ai gagné le point.
Bon, maintenant, c'est chacun notre tour, et puis voilà, on verra jusqu'à temps qu'il y ait élimination.
Donc là, j'ai pas le point.
Oh, pas.
Hey, tu sais quoi? On joue tout sur la dernière.
Allez.
Sur la dernière, mais t'en fais pas, la dernière, tu la trouveras pas. Bon, coureur à élimination, ce sera des coureuses. On va se diriger vers les 8 éditions de la Flèche Brabançonne. Citez-moi des coureuses qui ont fini sur le podium.
Il n'y a pas sur Wikipédia les filles.
Lippert, Persico, Bastianelli,
Vollering.
Doucement.
Il faut prendre des points quand tu peux.
Ah oui, d'accord.
Ferrand Prévost.
Russ Winder.
Oui.
Je suis déjà à 5 là.
Bah, de toute façon, personne pourra aller plus loin. Là, sur les.
Je vais tenter Voss.
Il se plie les ongles en tout. Attends.
Voss, c'est bon.
Non, mais... Il n'y a pas sur Wikipédia les trucs de filles.
Lippert, on l'élimine. Voss, on l'élimine. Vollering, on l'élimine.
Je t'ai dit Persico, Bastianelli.
Persico, c'est bon.
Winder.
Bastianelli, c'est bon.
2005, 2006, 2007, Oscar Fréré, tu vois. Moi, je pense que je l'avais bossé.
J'en ai marre de lui.
Depuis tout à l'heure, ça, j'avais bossé.
Allez, Anto, faut prendre un risque. Une petite réponse. Savoir si je t'élimine. Ah oui.
Jani Longo.
8 éditions, il dit Jani Longo. Mais c'est pas possible. Ah, Van der Breggen, elle a dû en prendre aussi.
Johan.
Non, mais moi.
Anka Kufler-Nagel.
Mais arrête de raconter n'importe quoi.
Je
ne
connaissais pas celle-là.
Il y en a plein.
Non, mais moi, je peux dire plein de bêtises. Je vais dire Longo Barton. On l'a dit ou pas ?
Attendez.
Lamborghini.
Laissez-moi un instant. Laissez-moi un instant.
Là, il va Lamborghini, c'est non.
Van der Breggen.
Laissez-moi un instant.
Bon, bah, je pense que le point est pour Jérémy.
Oui, oui, je pense. Oui.
Bon, c'est, dernier. C'est une volée. On a des paris
et
à
la
faire.
La dernière. Allez, une petite à 3 points. Chez les femmes, il y a eu 8 éditions. Lone Bertens prend part à 7 éditions. Ce sera sa 7e cette année. Quel autre coureur additionne autant de départs?
Non, mais d'accord. Non, mais il y a une seule
Valérie Demet.
Non. C'est une coureuse néerlandaise de la Phoenix de Koninck.
Néerlandaise de la Phoenix?
Ouais.
Il n'y a que Evie Kuipers, non?
Castel.
Ah, non.
Même ça, il n'arrive pas à trouver le truc. Hein.
Non, mais c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat? Parce que franchement, vous n'avez pas
encore. De Castelline, la c'est ce que. Non, ce n'est pas Castelline. Elle a été vainqueur sur plusieurs World Series Gravel l'année dernière.
Non, mais ça va. World Series Gravel. Une néerlandaise. C'est la seule course que regarde Anthony. Là,
prénom Paulina.
Roya Kers.
Oui.
Bah bravo. Moi je dis que.
Et victoire sur le fil de Jérémy.
Ouais, sur le fil, on sait même pas quel point il y avait.
On sait rien. Alors, le quiz est très bien organisé, mais alors le tableau des comptes, ouais. C'est une catastrophe. Hein.
Tiens. Ah, j'ai le tableau des comptes. 1-1-2-2 pour le chat. Jérémy, 1-1-2-2-3. Johan, 0. Anto. Allez,
c'est rapide. 0 moins 1 Anto.
Bon, les paris là. Hein,
oui, le type reste avec nous parce que c'est le seul endroit où tu es utile pour les paris. Parce que vu que tu fais des bons plans à chaque fois, on l'a remarqué. Reste avec nous.
Même pas vrai.
On
va
Alors, on fait les paris, les flèches Brabanson. Tac, tac.
Et les cotes ne sont pas sorties non plus.
Non, mais bon, là, les Starfist, elles sont quand même officielles.
Donc, nous avons le vainqueur sortant, Dorian Godon. Nous avons pour Alpecin Axel Laurence.
Qui est non, mais moi, je ne cherchais pas. Hein. Tu l'as cité, là. Ouais, c'est Axel Laurence, mon prono.
Voilà ce qu'on a. Et puis, après, c'est compliqué. Marc Hirschella, Nils Polite, Michael Matthews, Richard Carapaz, tiens, qui va faire les classiques.
Ah bon ouais, Richard Carapaz
ouais. Attends, juste pour Marc Hirschi, est-ce qu'il y a d'autres leaders? Parce que s'il y a d'autres leaders, il ne va bizarrement pas avoir de jambes.
Morgado, Barguil. Alors, je vais te dire.
Descends.
C'est pas facile c'est avec tout écran. Il y a Bax.
Il y a Bax. Il y a ton bien sûr Bax.
Morgado, Polit, c'est ce que je disais. Vink et Kovi. Donc, pour UAE. Donc, tu donnes qui?
Ah, moi, je t'ai dit, je reste sur mon prono à Axel Laurence. Laurence.
Donc, il va faire quatrième.
On la garde douce là.
Je m'en vais, je sais pas trop inspiré là. Demande à Anto,
Anto, vas-y, donne-moi un nom au hasard, random là, vas-y.
Quinton Hermans.
Quinton Hermans, il s'est pris une énorme boîte là.
Il est pas là.
Il est là, mais il était DNS. Moi, je suis pas sûr qu'il soit. Je vais jouer Crow Andersen. Moi.
Ah, c'est pas mal. Et moi,
Calpecin, ça marche bien en ce moment. Alors les shampoings, pas trop puisqu'on a mis des chapeaux, mais l'équipe elle roule.
Et moi je vais vous dire Andreas Kron, je sais pas pourquoi, je l'ai vu.
Il fallait trouver un truc, on est à 1h10 d'émission.
Et voilà, donc du coup ça sera ça. Merci
de merci beaucoup à tous. Hein.
À ceux qui ont tenu jusqu'au bout, ils sont vraiment courageux.
Ils sont 4.
Il n'y a plus personne. Non, je sais pas. Merci Anto, on te revoit l'année prochaine donc, pour la campagne de classique pavé. Jérémy, un plaisir.
Pense à réviser Anto.
Un plaisir à regarder aussi. Pensez aussi à regarder la course d'âme. Hein. Il sera diffusé sur Eurosport.
On regarde tout. Anthony regarde tout en plus. Je sais même pas pourquoi tu poses ça ici.
C'est quand
Allez, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Merci au chat encore une fois d'avoir participé. Marrant. Vous êtes des amours. Merci à tous. Et puis à très bientôt.
Non.
Bon, pas à très bientôt.
Ciao.
Allez, salut.
Salut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.